Hier soir, le dernier rapport des experts des Nations Unies indique que le M23 a bénéficié du renfort direct de troupes rwandaises et d'un important appui de l'armée ougandaise lors de la prise et de l'occupation de la ville de Goma. Le même rapport va plus loin en précisant que Kigali et Kampala ont créé, formé et financé le M23. Comment analyser les conclusions de ce rapport? Quel pourrait être leur impact dans la résolution de la crise dans le Nord Kivu? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 5 décembre 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats André Alain Tundu Liongo, ancien ambassadeur au Rwanda et ancien diplomate à Paris. Il est cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Juvenal Munubo Mubi, député national de l'opposition et cadre du parti politique UNC. Il est élu du territoire de Walikale au Nord Kivu. Monsieur Munubo, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Et le professeur Dominique Wertz, il est professeur à l'université de Liège en Belgique et consultant à la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde, à vos invités et à tous vos auditeurs.
Merci, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Julien Agazé de Lubumbashi au Katanga. Le rapport des experts des Nations Unies est la bienvenue car il vient réaffirmer ce qui était déjà connu. Maintenant que tout est clair concernant le soutien du Rwanda et de l'Ouganda au M23, nous, peuple congolais, attendons avec impatience la deuxième étape qui est celle de sanctions à l'égard de ces deux États. Sinon, ce rapport sera considéré comme une coquille vide. Mike Bassa de Bounia en province orientale. Le rapport pointe du doigt l'Ouganda et le Rwanda, mais on part négocier en Ouganda. Est-ce qu'on se moque de la population congolaise? Merci de nous suivre à Rutshuru au Nord Kivu sur la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Des experts de l'ONU avaient déjà accusé le Rwanda d'avoir activement soutenu la rébellion du M23 et d'après un nouveau document, plus de 1000 soldats rwandais auraient facilité la prise de Goma par les M23. Selon le texte daté du 26 novembre et mis en ligne par le New York Times, plusieurs compagnies des forces de défense du Rwanda sont entrées en territoire congolais et ont pris part à l'offensive sur Goma. Selon le document de ce groupe des experts des Nations Unies pour la RDC, dirigé par Steve Egg, le M23 a bénéficié du renfort direct des troupes rwandaises ainsi que l'appui important de l'armée ougandaise. L'essentiel de ce rapport dans cet élément de Jacques-Yves Molima.
Selon ce rapport, quand le M23 a commencé son offensive sur Goma, il a bénéficié directement du renfort de l'armée rwandaise à partir de la frontière à Kibumba. Une unité spéciale des forces rwandaises estimée à au moins 1000 militaires, selon toujours ce rapport, sous le commandement du colonel Vincent Gatama, ont renforcé le M23 lors des opérations visant la chute de la ville de Goma. Le 20 novembre dernier, lorsque le FRDC quittait la ville, les troupes rwandaises sont entrées clandestinement dans la ville de Goma à partir de Gisenyi en empruntant des petites ruelles situées entre les deux villes frontalières. À en croire ces rapports, les rebelles du M23 portent la même tenue militaire de l'armée rwandaise afin de camoufler la présence des militaires rwandais aux côtés des rebelles. Selon toujours ces rapports, les gouvernements rwandais et ougandais ont créé, équipé, entraîné, renforcé et commandé directement la rébellion du M23. Et les rapports de souligner que général James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense, et Charles Kanyonga, chef d'état-major rwandais, ont planifié les stratégies et l'attaque. En plus, ils ont continué à donner des ordres au général rwandais Emmanuel Rovusha, à Makenga, chef militaire du M23, et à Bosco Taganda.
Merci Jacques-Yves Molima pour tous ces détails. André Alain Atundu, je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Vous êtes un ancien ambassadeur au Rwanda et un ancien diplomate à Paris. Ce n'est pas la première fois que les rapports, qu'on sort des rapports des experts de l'ONU qui pointent de doigt le Rwanda et l'Ouganda comme étant des pays qui appuient le M23. Quelle analyse vous faites à ce énième rapport des experts des Nations Unies?
Ce énième rapport vient consolider et étayer les propos des officiels congolais en cette matière, d'où qui donne même une certaine explication, ce qui permet au peuple de comprendre pourquoi le gouvernement a défini cette rébellion d'agression. Ce sont des troupes étrangères qui sont venues, on peut dire, à l'appui, parce que c'est une couverture, mais en réalité, qui ont employé les mutins comme des boucliers humains pour se cacher derrière eux. Et voilà que le rapport vient confirmer ce que nous savions et ce que nous cessons de dire à qui veut bien nous entendre.
Alors, vous avez parlé des officiels congolais qui oui. ont déjà qui ont pointé du doigt, vous dites le Rwanda et l'Ouganda. Oui. De quels officiels s'agit-il? Parce qu'apparemment, du côté congolais, on n'a pas le gouvernement congolais ne pointe pas du doigt directement l'Ouganda et le Rwanda.
Ah bon? Parce que le ministre des Affaires étrangères fait partie du gouvernement. Il l'a clairement dit, et en des lieux adéquats auprès des organisations internationales, auprès de nos partenaires. Il a dit que c'est le Rwanda qui est agresseur. Et aujourd'hui, on vient ajouter l'Ouganda. Et donc, contrairement aux apparences, n'est-ce pas, le gouvernement de la République a toujours identifié les agresseurs et les a traités comme tels, n'est-ce pas? Alors, autre chose, c'est de dire, est-ce qu'il faut chaque fois répéter « tel nous a agressé » Non, l'action est beaucoup plus importante. Et en cette matière, puisque nous parlons du Rwanda et de l'Ouganda, beaucoup se demandent pourquoi, alors que nous avons identifié d'agresseurs, le président de la République continue à aller en Ouganda, à Kampala notamment, à avoir des rapports avec le Rwanda. Eh bien, lorsque vous voyez l'histoire de notre pays, et même de nos relations, par exemple, entre le Zaïre de Mobutu et l'Angola de Neto et de Dos Santos, eh bien, vous verrez que même si le Zaïre combattait le pouvoir MPLA à travers l'UNITA et que le pouvoir MPLA le savait, eh bien, cela n'a pas empêché le président Dos Santos et le président Neto de venir ici, d'avoir des ambassadeurs de part et d'autre, etc. Donc, le plus important ici, c'est l'action que l'on mène sur les terrains. Ayant privilégié l'action diplomatique qui a porté, heureusement, ces résultats, qui nous a permis de faire l'économie d'une guerre pour récupérer Goma, je crois qu'on ne peut pas faire du tort, on ne peut pas condamner nos autorités pour avoir été aussi efficace. Parce que lorsque vous négociez sur le plan international, vous prenez des contacts, il faut tenir compte non seulement de vos alliés, mais des alliés de vos ennemis qui vous appuient. Donc ceci peut justifier cela en l'occurrence.
Alors Monsieur Atundu, certaines personnes se demandent pourquoi les pays membres de la CIRGL restent passifs par rapport à tous ces rapports que les experts des Nations Unies publient condamnant le Rwanda et l'Ouganda. Non. Pourquoi il n'y a pas de sanctions?
Non, je pense qu'ils ne restent pas passifs. La CIRGL est une organisation régionale différente de l'ONU. L'ONU a sa philosophie, l'ONU a ses preuves. Eh bien, la CIRGL a ses preuves, n'est-ce pas? Et pour étayer mes propos, vous pouvez vous référer aux différents communiqués qui clôturent chaque fois les rencontres. On condamne le M23, on condamne les appuis extérieurs.
Sans les citer.
Ah, mais c'est, je vous ai dit, il faut le résultat est plus important que la nomination des gens, n'est-ce pas? Vous savez, pour obtenir
ce genre de communiqué... Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière?
Non, rien ne se cache, c'est une approche, si vous me permettez de le dire, c'est une approche tactique. Nous voulons qu'ils se condamnent sans que nous puissions les froisser. Eh bien, le Rwanda, l'Ouganda ont pris des positions qui condamnent les agresseurs, disons les intervenants intérieurs, dont ils font partie, mais puisqu'on les a pas cités, ça a facilité la chose. Mais le plus important pour nous, c'est le résultat. Le résultat, c'est des sanctions en cascade, de retrait des fonds, etc. Ça, c'est beaucoup plus important que peut-être une autosatisfaction. J'ai cité le Rwanda, j'ai cité l'Ouganda, mais sans résultat probant.
On va prendre pour vous, Monsieur Atundu, cette réaction qui nous vient de Bruxelles en Belgique.
Docteur Maëlle Yelema de Bruxelles. Ce rapport ne fait que confirmer ce que lui-même, le président Kabila, avait dit, que c'est un secret des polichinelles. Donc pour moi, ce rapport doit faire comprendre à nos dirigeants qu'aller à Kampala pour discuter avec les M23 ne sert à rien. Car comme tout a été créé, commandé directement par les Rwanda et Ouganda, aller discuter avec les M23 est une erreur de la part de notre gouvernement. Les Rwanda et l'Ouganda cherchent par tous les moyens d'être dédouanés aux yeux de la communauté internationale. Car ces pays, y compris leurs dirigeants, prennent des répercussions judiciaires futures. Ils veulent démontrer aussi que le problème est congolo-congolaise, que le rapport de l'ONU est sans fondement. En plus, j'aimerais savoir, est-ce que nos dirigeants analysent tous ces rapports?
Réaction, André Alain Atundu.
Il peut se rassurer, nous analysons tous ces rapports, mais je voudrais lui expliquer la méthodologie d'approche, n'est-ce pas?
Brièvement.
Qui semble faire problème. Le président de la République vise deux choses. D'abord, mettre fin à la guerre, ensuite, construire une paix durable. Pour mettre fin à la guerre, il faut savoir parler à l'adversaire. Aller sur tous les champs de bataille diplomatiques. C'est ainsi que le président s'est rendu non seulement à Kampala, mais il faut noter qu'il a commencé par Addis Abeba et partout où on l'a invité. Donc ceci est nécessaire. Il est nécessaire de parler directement aux gens qui font la guerre pour mettre fin à la guerre. Alors deuxièmement, lorsqu'on a mis fin à la guerre, alors il faut maintenant étudier les modalités pratiques pour créer une paix durable. Et voilà pourquoi le président sera là-bas, et les résultats sont là. On ne peut pas lui reprocher, n'est-ce pas, d'avoir stoppé la guerre par les moyens diplomatiques. Et maintenant, c'est encore la diplomatie qui doit nous aider à construire la paix.
Merci, Monsieur Atundu. Juvénal, Maître Juvénal Monobo, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique UNC. Vous êtes élu du territoire de Walikale, au Nord Kivu. Quelle lecture vous faites de ce énième rapport des experts des Nations Unies?
D'entrée de jeu, madame, je voudrais tout d'abord saluer M. André Atundu, saluer également l'invité qui intervient à partir de l'Europe. Je voudrais en deuxième lieu exprimer toute ma compassion à nos compatriotes qui souffrent atrocement de ces guerres à répétition, des souffrances atroces, morts d'hommes, déplacements massifs des populations, viols, pillages, vous avez suivi dernièrement à Mugunga. Eh bien, des rapports sont abondés déjà, plusieurs rapports. Il y a les rapports d'étape, qu'on a appelé rapports intérimaires, l'addendum du rapport, les rapports finaux, et la lettre ici avec ses annexes qu'a adressé les coordonnateurs du groupe d'experts. Bref, les preuves sont déjà réunies. Les preuves sont déjà suffisantes. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut aller au-delà des condamnations. Il faut maintenant qu'on arrive à pratiquer des sanctions. La sanction qui a été prononcée contre le chef d'état-major des forces terrestres sur le plan interne, je ne pense pas qu'il soit le seul à subir des sanctions. Pourquoi? Parce que plusieurs écrits dans le passé, plusieurs rapports ont fait état des mafias au sein de nos forces armées et qu'on devrait continuer avec cet élan. Sur le plan international, eh bien, il faudrait qu'on arrive effectivement à mettre sur pied des sanctions. Des sanctions, par exemple, d'empêcher les déplacements, les gels des avoirs contre certains officiers M23. Qu'est-ce qui rassure qu'ils voyagent de temps en temps? Est-ce que ça a eu un effet sur leur personne, dans leur chef? Vous sanctionnez quelqu'un qui ne voyage pas. Vous gelez les avoirs, est-ce qu'ils ont pu évaluer combien d'argent ils ont à l'étranger, aux États-Unis, en Europe? Il faut aller vers la source du problème, ce qui agresse le Congo, et il faudrait vraiment qu'on arrive à sanctionner. Et donc, je pense que le groupe d'experts pourra défendre, en tout cas, ses rapports au comité des sanctions des Nations Unies, et je suis sûr que des sanctions seront prononcées. Il faudrait aussi que sur le plan interne, que le gouvernement congolais mesure la gravité, parce que j'ai comme l'impression que le gouvernement n'a pas encore pris les choses vraiment au sérieux comme il se doit. Monsieur Atundu a dit que priorité vient d'être donnée à l'action diplomatique. Mais lorsque vous suivez des déclarations de certains responsables, comme le chef d'état-major des forces terrestres, les tout nouveaux, il s'est dit, il s'est confié à RFI, il a dit que les FARDC étaient prêts à lancer l'assaut sur Goma. Bref, on se demande, priorité est axée sur quelle piste de solution? Est-ce que c'est la solution militaire? Est-ce que c'est la solution diplomatique? Est-ce que c'est la solution politique? Je voudrais ici préciser, et nous sommes conscients de cela, qu'on a pris beaucoup de retard dans la réforme des FRDC. On parle des réformes du secteur de sécurité, et particulièrement des FRDC, pratiquement depuis 15 ans. C'est pratiquement depuis 1997 qu'on parle de cette réforme-là. Il y a plusieurs rendez-vous ratés par rapport à ça. Je vous informe actuellement qu'au Congo, il n'y a pas une loi sur la programmation militaire où on doit prévoir les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Nous sommes au Parlement, nous attendons que le gouvernement nous propose, nous dise voilà, qu'est-ce qui sera obtenu comme acquisition et comment l'armée doit fonctionner à l'exemple des armées d'autres pays. Alors, il y a aussi une contradiction, et je vais peut-être me limiter par là à cette étape, une contradiction entre d'une part ce qu'affirment les experts et ce qui est fait finalement sur le terrain. Lorsque vous lisez la déclaration de Kampala, en lisant la déclaration de Kampala du 24 novembre 2012, il y a l'adjectif tel que légitime des revendications. Le président de la République doit écouter, répondre aux aspirations ou aux revendications légitimes. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé le président à signer une telle déclaration. La légitimité, qui doit apprécier la légitimité? Eh bien, il faudrait qu'on arrive à un moment à stopper ce cycle. Parce que nos populations vivent ce qu'on appelle les supplices des Sisyphes. C'est vraiment un éternel recommencement. On signe des accords aujourd'hui, après 6 mois, une nouvelle guerre reprend, raison pour laquelle il faudrait qu'on en finisse une fois pour toutes. Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qui a dit qu'il faudrait que la sincérité gagne finalement les chefs d'État de la sous-région. Pourquoi? Parce qu'il faut finalement s'interroger d'où vient le problème.
On va prendre pour vous, monsieur Maître Juvenal Mounoubo, cette réaction qui nous vient de Kalanga, au Kasai Occidental.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero, à Kananga, au Kasai Occidental. Je pense que le rapport des experts des Nations Unies est du déjà entendu et du déjà vu, car rien de neuf n'a été apporté. Mais néanmoins, je crains que ce rapport, tel que publié par ces experts, au lieu d'apporter la solution à la situation de l'Est du pays, puisse jeter encore de l'huile au feu, car ce rapport cite nommément le Rwanda et l'Ouganda, que nous connaissons que ces deux pays se battent et veulent à tout prix imposer la paix à l'Est de notre République. Est-ce, peut-on dire, que ce rapport est opportun, n'est-ce pas un rapport de trop?
Maître Juvenal.
Oui, on peut avoir cette impression, effectivement, que c'est un rapport de trop, mais il faut quand même avouer que c'est un rapport réalisé par des experts des Nations Unies, la communauté des nations. Et si vous lisez, je convierai cet auditeur à lire, par exemple, le rapport final qui est suffisamment détaillé. Je crois que des éléments de preuve sont là, ce qu'on appelle en droit des pièces à conviction. Mais ce qui reste, c'est quoi? C'est d'activer les mécanismes des sanctions. J'ai parlé du comité des sanctions des Nations Unies.
Craint que les mêmes pays qui sont cités comme agresseurs soient les mêmes qui sont à Kampala pour trouver des solutions afin de mettre fin à la guerre de l'Est.
C'est pourquoi,
est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation?
C'est pourquoi j'ai appelé à la sincérité, parce que celui qui pilote le processus dans le cadre de la CIRGEL, c'est le président Museveni. Raison pour, et l'Ouganda a été cité, comme vous le savez, dans les rapports finaux et dans la récente lettre du coordonnateur du groupe d'experts, raison pour laquelle, en tant qu'acteur politique congolais, j'appelle à la sincérité. Il faudrait que la sincérité gagne les acteurs politiques, les chefs d'État. Il faudrait qu'ils aillent au-delà du protocole et que la sincérité les gagne. Merci. Et puis qu'ils voient les souffrances des populations congolaises, parce que ça en est trop quand même.
Merci Maître Juvenal Mounoubo. Professeur Dominique Wertz, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et consultant à la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Votre analyse sur les conclusions de ce nouveau rapport des experts de l'ONU sur l'implication même du Rwanda et de l'Ouganda quant à l'assaut sur la prise de la ville de Goma.
Mais écoutez, oui, moi j'ai lu le rapport comme tout le monde, et donc malheureusement, en effet, c'est un rapport de plus rédigé par des experts. Donc actuellement, le rapport n'est pas encore endossé de manière politique par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il est clair qu'on a maintenant une nouvelle démonstration, je pense relativement étayée, qui démontre que les deux pays voisins de la République démocratique du Congo sont aujourd'hui impliqués et même plus que ça, sont les pilotes du mouvement rebelle qu'on appelle le M23 et qui s'est transformé dans son aile militaire en s'appelant maintenant l'armée révolutionnaire du Congo. Je pense qu'il va falloir, au-delà des constats qui sont posés maintenant depuis le mois de juin 2012, hein, donc on est au troisième rapport des experts qui ont été mandatés par la commission 1533 sur le contrôle du commerce des armes sur la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, je pense que ce troisième rapport maintenant ne peut plus mettre la communauté internationale en défaut par rapport au fait de pointer les pays voisins de la RDC qui sont engagés aux côtés du M23 et qui sont même en train de piloter, puisque maintenant on ne parle même plus d'un soutien, mais on parle bien d'un pilotage de ce mouvement rebelle par l'Ouganda et le Rwanda. Et donc je pense que maintenant il va falloir, si la communauté internationale a encore un tout petit peu de sérénité et surtout de sincérité, il va falloir maintenant que le Conseil de sécurité endosse ce rapport des experts et en effet prenne des actes forts. Et les actes forts, on sait bien qu'au niveau de la communauté internationale, la meilleure manière de pouvoir montrer qu'on est pour la justice et qu'on est pour la paix et qu'on est pour la protection des populations, c'est évidemment la dynamique des sanctions. Et je pense que maintenant, il va falloir que le Conseil de sécurité se positionne de manière très claire, vu tous les rapports qu'il a maintenant sur sa table, qu'il se positionne clairement au niveau de sanctions contre les deux pays qui actuellement jouent avec le feu en soutenant le M23.
Professeur, plusieurs fois on a cité le Rwanda et l'Ouganda. Au lieu que la situation s'améliore, on a l'impression que ça s'envenime. Est-ce que on peut dire que ces rapports n'apportent rien sur le terrain? Allô, professeur? Je crois qu'on a perdu le professeur Dominique. La réalisation va essayer de le retrouver. Monsieur Atundu, vous avez suivi Maître Juvenal Munubu qui dit qu'on a l'impression que le gouvernement n'a pas encore pris ce problème du Nord Kivu au sérieux. Et puis par rapport aux priorités, vous avez parlé de l'aspect diplomatique de la chose qui a réussi à mettre fin à la guerre, alors que le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major, a déclaré sur RFI que les FRDC étaient prêts, les militaires FRDC étaient prêts pour le combat, pour la guerre.
Je ne vois pas de contradiction. Parce que privilégier, le président de la République l'a rappelé d'ailleurs, que nous avons trois options. L'option politique, l'option militaire et l'option diplomatique, qui marchent en synergie. Et donc, pendant que nous tirons le maximum de profit de la voie diplomatique qui nous a réussi si bien, eh bien, nous ne démissionnons pas de nos responsabilités de défendre la République. C'est ainsi que le général Olenga a rappelé, n'est-ce pas, les obligations du militaire, les obligations de l'armée quant à défendre. Il n'y a pas de contradiction à cela. Chacun joue son rôle et les vaches sont bien gardées.
Quel pourrait être l'impact de ces conclusions, des conclusions de ce rapport dans la résolution de la crise dans le Nord Kivu? C'est la deuxième partie de cette émission. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté mercredi 29 novembre 2012 une résolution qui maintient les sanctions, l'interdiction des ventes et livraisons d'armes aux groupes armés opérant actuellement en RDC, parmi lesquels les M23, les FDLR et les Mai Mai. Lors de son intervention devant le Conseil, Ilika Atoki, ambassadeur de la RDC en France et envoyé spécial pour la RDC au Conseil de sécurité, a souligné que ces mesures permettront de créer les conditions rapides d'un retour à la paix en RDC. L'ambassadeur de la RDC a réitéré l'ouverture de son pays au dialogue avec les vrais protagonistes qui est le Rwanda. Il a aussi demandé au Conseil de sécurité d'inscrire le M23 comme force négative et nouveau membre, un nouveau groupe terroriste au même titre que la LRA et les FDLR. On écoute Ilika Itoki dans ses propos recueillis par Maya Faek de la radio des Nations Unies à New York.
Le Conseil devrait s'assurer que le comité a inscrit le M23 comme force négative et nouveau groupe terroriste, et cela au même titre que l'armée de résistance du Seigneur LRA et les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. La République démocratique du Congo réitère son ouverture au dialogue avec le vrai protagoniste, à savoir le Rwanda. Toutefois, elle ne se contentera plus d'arrangements faciles qui débouchent toujours au bout de 3 ans sur les mêmes effets et avec les mêmes conséquences. Elle exige un débat ouvert, franc, qui puisse garantir une paix durable dans l'intérêt de tous les peuples de la région. Elle en appelle également aux bons offices des Nations Unies pour faciliter ce dialogue.
Le Rwanda, pour sa part, continue de nier toute implication dans les conflits dans l'est de la RDC. Olivier Ndouungirehe, premier conseiller à la mission du Rwanda à l'ONU, s'est aussi exprimé devant le Conseil de sécurité. On l'écoute.
Permettez-moi de redire ici haut et fort que le Rwanda n'est ni la cause de cette crise à l'est de la RDC, ni partie à ce conflit. Outre notre engagement indéfectible au sein du processus régional, je voudrais vous informer que le président Kabila et le président Kagame sont en contact très régulier sur cette question et que les relations sont restées cordiales. La RDC et le Rwanda sont des frères de sang et l'on va continuer autant que faire se peut à aplanir nos différends et à assurer une paix durable dans la région. Je vous réitère que le Rwanda va continuer à être partie à la solution de la crise en RDC, que ce soit au niveau bilatéral, régional et au niveau du Conseil de sécurité. Nous appuyons les efforts déployés par le secrétaire général ainsi que toute initiative qu'il mettra sur la table pour un dialogue intercongolais s'attaquant aux causes profondes des conflits incessants qui déchirent ce pays. Notre pays attend avec intérêt notre entrée effective au Conseil et nous nous tenons naturellement disposés à travailler avec toutes les bonnes volontés au sein du Conseil pour résoudre cette crise ainsi que bien d'autres dont souffre ce monde.
Alors la réalisation me signale que le prof est en ligne, professeur Dominique. Je vous posais déjà la question sur l'impact que pourraient avoir ces conclusions, les conclusions de ces rapports dans la résolution de la crise au Nord Kivu. Qu'est-ce que ça pourrait apporter des nouveaux?
Je suis désolé, mais je n'ai pas entendu la question.
Je vous ai posé la question avant qu'on ne puisse nous couper sur l'impact que pourraient avoir les conclusions de ces rapports dans la résolution de la crise dans le Nord Kivu.
Écoutez, je n'entends pas, je suis désolé, mais
je crois qu'on a un problème.
J'espère que vous m'entendez bien.
Je vous entends bien, mais malheureusement vous ne nous entendez pas. On va essayer de vous rappeler professeur Dominique Wertz. Juvenal Mounoubo, est-ce que ces conclusions pourraient avoir un impact dans la résolution de la crise?
Si ces conclusions sont suivies des faits, effectivement. Donc il y a un travail qui se fera certainement à New York, mais il y a un travail aussi pour la diplomatie congolaise de se montrer proactive et de faire les lobbying nécessaires, les suivis nécessaires pour que ces rapports se traduisent en actes concrets. Mais moi je pense aussi que sur le plan interne, il reste des problèmes. Il y a des problèmes qui ne sont toujours pas résolus. Et je pense que c'est là l'importance quand même de décrisper le climat politique. Lorsque vous voyez les fonctionnements des institutions, les acteurs politiques, lorsque vous écoutez les discours, lorsque vous voyez les modes de fonctionnement même, comment les institutions fonctionnent et leurs animateurs, et surtout après les élections contestées du 28 novembre 2011, on s'aperçoit que le besoin est assez grand, assez que le climat politique, que je considère comme étant un climat tendu, et plusieurs observateurs notent comme ça, que ce climat soit décrispé. Raison pour laquelle l'idée d'un dialogue interne inclusif, c'est une idée indéfendable en tout cas, et il faudrait vraiment que ce dialogue se tienne. Il n'est pas question ici de confondre ces dialogues avec des pourparlers à Kampala. Pourquoi ? Parce que l'opposition congolaise n'est pas partie aux accords du 23 mars 2009, raison pour laquelle il n'y a pas de délégués de l'opposition à Kampala, mais le besoin se fait sentir en tout cas pour
décrypter. Et pour vous, la solution devrait commencer en interne.
Exact, exact. C'est comme dans une maison. Comme dans une maison, eh bien, il faut d'abord que l'harmonie soit créée à l'interne. Il y a pas mal de questions. Il y a pas mal. Je peux pas les recenser toutes maintenant. Il y a la question, par exemple, de la suite du processus électoral. C'est vrai qu'il y a un travail qui s'effectue par rapport à la réforme de la CENI, mais il faudrait qu'on sache dans les mois qui viennent qu'est-ce qui va se passer. Il faudrait que la démocratie s'installe à la base. Il y a la question de la Cour constitutionnelle. C'est des questions restées en jachère. Il y a la question des droits de l'homme, la suite du procès Tchebea. Tu vois que ça s'est conclu pas sur une très très bonne note, pas sur une note satisfaisante par rapport à la nécessité de respect des droits de l'homme. Il y a plusieurs questions. Il ne faudrait pas que le pouvoir ait eu peur. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agira pas ici d'un Sun City 2. Il n'est pas question pour l'opposition d'aller demander des postes. Merci. Mais il est question de voir, de faire le diagnostic un peu de la situation actuelle du pays et de voir comment s'entraider pour en sortir. Nous avons un plan de crise en tout cas au niveau de l'INC.
Merci Maître Juvenal Mounoubo, André Alain Atundu. On a suivi l'ambassadeur qui a dit que la RDC va négocier directement avec le vrai protagoniste qui est le Rwanda, mais dans les faits le gouvernement va négocier avec le M23 à Kampala. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction?
Non,
au niveau même des officiels.
Non, il n'y a pas une contradiction. Le vrai acteur, c'est l'Ouganda ou le Rwanda, eh bien c'est avec eux que nous avons négocié. Si dans leur panier...
Mais les négociations du Kampala, c'est avec le M23
panier, si dans leur panier, ils amènent le M23, ben pourquoi pas? Je vous ai dit, le contact avec le M23 est nécessité par le fait de mettre fin à la guerre. Voilà pourquoi on doit parler avec le M23 dans un cadre bien précis, déterminé.
Mais les négociations de Kampala.
Non, parce que, qu'est-ce qu'on a dit?
C'est entre le gouvernement et qui?
Le président s'est engagé à écouter et à donner une suite à toute revendication légitime, adjectif qui semble faire problème au maître. Légitime, ça signifie une revendication fondée sur la non-application de l'accord du 23 mars 2009. C'est tout simplement cela. Et donc, il est nécessaire de savoir parler à l'adversaire, je le répète.
Et donc, le chef de l'État, il va écouter seulement, il n'y aura pas...
Mais c'est l'engagement qu'il a pris. C'est l'engagement qu'il a pris.
Il n'y aura pas de discussion, il va juste écouter.
Il a pris l'engagement d'écouter, n'est-ce pas? Et de voir dans quelle mesure c'est légitime. Ça c'est normal. Et deuxièmement, que l'opposition aujourd'hui se targue de ne pas aller à Kampala parce que, entre guillemets, ils n'ont pas été partis à la signature, alors je me demande pourquoi ils criaient au fait que ces accords étaient secrets. L'occasion est donnée à l'opposition d'aller assister au moins en tant que témoin pour donner à l'opinion la preuve que le pays n'a pas été vendu, que les autorités ont défendu valablement la République, notre État et nos populations.
Et quel pourrait être l'impact de ces conclusions sur le terrain, M. Atundu?
Eh bien, l'impact d'abord, ça va faciliter et légitimer la prise des sanctions ciblées contre les États et contre les individus. Ça va décourager les adeptes d'une telle aventure, notamment du côté congolais et du côté dans la sous-région. Et enfin, ça va consolider l'unité du peuple congolais autour du leadership de son président, parce que la cause qu'il défend est juste et est entendue. La population a la preuve que le président s'est battu, et de belle manière, pour sauvegarder la souveraineté de la République, l'intégrité du territoire et assurer une paix durable à nos populations. Ce n'est pas une tâche aisée.
Merci, M. Atundu. Professeur, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Vous m'entendez bien là?
On s'est retrouvés.
Oui, voilà, professeur, à votre avis, quel pourrait être l'impact des conclusions de ce rapport dans la résolution de la crise dans le Nord Kivu?
Mais écoutez, moi je pense que la conclusion de ce rapport doit être en tout cas double. D'un côté, je pense qu'il faut que le gouvernement congolais et que les autorités à Kinshasa aujourd'hui prennent conscience que au travers de ce rapport, on voit bien qu'il y a une implication des pays voisins dans la déstabilisation à l'est de la République démocratique du Congo. Et il faut absolument que les autorités à Kinshasa comprennent que même si c'est très loin, même si c'est un petit peu éloigné des préoccupations de la majorité de la population congolaise, ben, il n'empêche que la déstabilisation dans cette région-là du pays doit être prise en compte de manière vraiment ferme et solide du côté de l'État congolais et des autorités congolaises. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer en guerre avec les pays voisins, mais ça veut dire qu'il faut être ferme dans les futures négociations, parce qu'il n'y a rien à faire, on y arrivera. On arrivera à une paix à l'est du Congo que par la négociation et par le dialogue politique. Et puis deuxièmement, je pense que pour aider, et on va voir maintenant, on va compter maintenant les amis de la République démocratique du Congo au sein de la communauté internationale. On a vu qu'il y a eu une mobilisation massive, notamment il y a une semaine, pour reconnaître la Palestine comme étant un État observateur non membre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a eu une mobilisation massive des États membres de l'Organisation des Nations Unies. Il faudrait qu'on ait la même démarche et la même dynamique par rapport à la République démocratique du Congo, et ça veut dire notamment que les États amis qui sont vraiment proches de la République démocratique du Congo et qui ont envie que ce pays se développe, même si ça va être évidemment compliqué parce qu'il va falloir prendre du temps, il va falloir qu'on se positionne en faveur de l'intégrité nationale et surtout de l'intégrité du territoire national de la RDC en prenant des sanctions claires, fortes, massives contre les États qui aujourd'hui appuient les États voisins de la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, qui appuient ce mouvement rebelle du M23 ou de l'armée révolutionnaire du Congo.
Professeur.
Et donc là, on va voir maintenant, avec ce troisième rapport, si la communauté internationale est vraiment cohérente avec elle-même et si elle prend des positions très claires en disant « nous voulons que la RDC se développe, nous voulons que la RDC reste un territoire uni et nous voulons, dans ce cadre-là, que les pays voisins qui sont aujourd'hui en soutien de forces néfastes, eh bien, soient sanctionnés ou en tout cas soient remis devant leurs responsabilités.
Professeur Dominique, la question que certaines personnes se posent est celle de savoir si la RDC a vraiment des amis au sein du Conseil de sécurité. On sait qu'au sein même de ce Conseil, il y a des pays qui s'opposent aux sanctions contre le Rwanda ou l'Ouganda.
Oui, je suis d'accord avec vous. La vraie question, c'est la construction de l'État congolais. Et la construction de l'État congolais passe par, évidemment, toute la mise en place d'un système de pouvoir public au niveau de l'éducation, au niveau de la justice, au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la diplomatie. Et sans doute, sans du tout mettre en question son excellence Monsieur Tshibanda, sans doute que la RDC, dans sa reconstruction d'un État digne de ce nom, elle doit aussi passer par une offensive diplomatique beaucoup plus forte que ce qu'elle ne fait aujourd'hui. Et c'est clair qu'aujourd'hui, la RDC doit compter ses amis et surtout reconstruire des relations durables avec les amis, parce qu'elle en a. honnêtement, elle en a, et pas uniquement la Belgique, et pas uniquement l'Europe. Il y a aussi des États, que ce soit du côté de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, de l'Asie, la Chine, il y a des États qui pourraient vraiment défendre la RDC dans son combat pour le maintien de sa de son intégrité territoriale.
Merci.
Et le maintien... Le développement de son pays sur l'ensemble du territoire. Et je pense qu'il y a une nation congolaise qui existe, et quand on passe la frontière, que ce soit au Katanga, que ce soit au Kivu, que ce soit à la province orientale, que ce soit du côté de Kinshasa, que ce soit du côté de l'Angola, du côté du Bas-Congo, il y a une nation congolaise qui existe. Et cette nation congolaise, il faut qu'elle soit reconnue aujourd'hui et soutenue par la communauté internationale.
Merci, professeur Dominique Werps. Monsieur Atundu, la RDC doit compter sur ses amis et sur elle-même aussi, au niveau même interne. Qu'est-ce que la RDC fournit comme effort pour pouvoir se faire entendre?
Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Les sanctions ne sont pas venues ex nihilo. C'est suite à l'action diplomatique soutenue, n'est-ce pas, que auprès de nos amis et partenaires, que des pays comme la Suède, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, même les États-Unis, ont pris des sanctions contre le Rwanda et contre certaines personnalités. Donc ça, c'est ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, je pense que sur le plan des organisations internationales, nous avons fait le plein, le maximum que nous aurions pu faire. Maintenant, il faut compter, comme l'a dit le professeur, sur des amis pour des actions ponctuelles et efficaces. Alors je voudrais rassurer le professeur que la déstabilisation de l'Est de la République fait partie intégrante des préoccupations quotidiennes du peuple congolais. Parce que nous avons entre nous une communication quotidienne, non seulement par les avions, mais par les téléphones, etc. Donc, qu'il soit rassuré, qu'il participe, n'est-ce pas, à ce lobby en faveur du Congo.
Merci, monsieur Rondou.
Des pays européens.
Alors, je vais vous demander aussi de conclure, parce qu'il nous reste au moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission.
Eh bien, la conclusion, c'est que je pense que les résultats doivent pouvoir amener la population, la classe politique dans son ensemble, tout intense confondu, à soutenir le leadership actuel dans sa méthodologie d'approche. Mettre fin à la guerre, construire la paix par la coopération.
Merci, monsieur Alain Atundu. Maître Juvenal Munubo, votre conclusion, la RDC doit-elle compter sur elle-même ou sur ses amis?
D'abord, compter sur elle-même. D'abord, compter sur le moyen des bords. Raison pour laquelle des concepts tels que la mobilisation générale, il faut en déterminer les contenus exacts. Et je pense qu'il faut décrisper les climats sur le plan interne. Et je crois, comme l'a dit le professeur Dominique, il faudrait que notre diplomatie se montre davantage capable, davantage proactive pour pouvoir réclamer, par exemple, des sanctions contre les agresseurs de la République démocratique du Congo. Et il serait intéressant, et ça nous attendons, il ne faudrait pas que Kampala consacre la partition du pays.
Merci, maître Juvenal Munubo. Reste moins d'une minute pour mettre fin à l'émission. On va prendre cette réaction de Bukavu rapidement. Vous allez conclure par là, professeur Dominique Werd.
Laurent Makumbuko à Bukavu, au sud Kivu, les derniers rapports de l'ONU confirmeraient l'agression du Rwanda. Alors, à quoi bon de négocier avec les rebelles qui sont sur le banc des accusés de l'ONU? Quelle est l'issue de cette négociation? Faudrait-il encore réintégrer ces gens dans le phare de fait?
Professeur Dominique, en 30 secondes, comment vous répondez à cet auditeur?
Écoutez, moi je pense que une des questions, c'est pas la seule, hein, mais on est en train de négocier et de discuter au Parlement sur le budget 2013 de la République démocratique du Congo. Moi je pense que M. Tambwe avait commencé un bon travail. M. Tshibanda continue à mener ce travail. Il faut absolument réformer et mettre, il faut donner un message à la population congolaise, même si elle est dans des situations partout dans le pays où elle est en demande, évidemment, de soutien au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du logement, au niveau des allocations, au niveau de l'emploi.
mais il faut qu'on mette un budget important à la, pour la diplomatie congolaise.
Merci professeur, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonsoir chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.